Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h30, pile, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. 47 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Le gouvernement met la pression pour que les gestes barrières soient bien respectés. On va aller à Strasbourg où le marché de Noël va être placé sous surveillance. Demain à 14 heures, on connaîtra les noms des deux finalistes de la primaire des Républicains pour la présidentielle. 140 000 militants votent depuis ce matin, on sera avec Alexandre Chauveau. Le candidat Éric Zemmour a attiré 7 200 000 téléspectateurs aux 20h de TF1 hier soir. Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Je poserai la question à Victor Chabert qui suit Éric Zemmour pour Europe 1. Ça s'appelle un cold case, une affaire criminelle résolue des années après. On vous racontera dans un instant comment un homme vient d'être arrêté 27 ans après le meurtre d'une lycéenne. Le temps, la météo avec vous Anissa Haddadi. Anissa, la tendance est au redoux et à la pluie, hein.
Oui, la pluie qui touche tout le monde aujourd'hui après une matinée sous le soleil au bord de la Méditerranée. La pluie arrive même pour vous et vous le disiez Romain, grâce à tous ces nuages et cette perturbation, les températures sont plus douces aujourd'hui avec une nouvelle baisse prévue dès demain. Il va falloir en profiter.
Merci Anissa, on va tenter d'en profiter et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Le variant Omicron qui fait son apparition en France, le nombre de cas de Covid qui augmente, 47 000 donc ces dernières 24 heures. À Strasbourg, la préfète a décidé de serrer la vis. Le marché de Noël va être très surveillé parce que le week-end dernier, les gestes barrières étaient, on va dire, mal respectés. Mélina Fachin en direct avec nous. Bonjour Mélina.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui va changer pour les visiteurs ?
Alors d'abord, les deux plus grandes places de Strasbourg, Kléber et Broglie, vont être fermées par des barrières et il faudra présenter son pass sanitaire pour y entrer. Charlotte, strasbourgeoise, les traverse régulièrement.
C'est vrai que ça peut peut-être faire perdre un peu de temps pour les résidents. Mais après, je comprends parce que le gouvernement, ils sont obligés de mettre des mesures pour freiner le virus, mais en même temps, c'est un peu compliqué.
Elle adhère aussi à une autre nouvelle mesure, ouvrir plus de zones de restauration, les seuls endroits où on peut manger et boire. Elles seront surtout mieux signalées.
Il faut que ça soit mieux indiqué, ouais, ça c'est sûr. Mais parce que moi je le sais parce que je suis venue vendredi. Mais il y avait tellement de monde vendredi qu'en fait on s'en rend compte que quand on arrive au bout.
Et effectivement, Véronique et Gabin, deux touristes, ne les avaient pas remarqués.
Vous ne savez pas du tout là, on vient de rentrer sur le marché, non, on ne savait pas.
On n'a rien vu encore, non.
Ouais. Non, parce que là, qu'est-ce qu'on aurait fait nous Moi, je pense qu'on l'aurait mangé en marchant là.
C'est exactement ce que la préfecture veut éviter. Ensuite, à propos du masque, déjà obligatoire partout, les amendes de 135 euros vont commencer à tomber pour les contrevenants. Émilie n'y voit pas d'inconvénient.
Dans le cadre d'un marché de Noël où il y a forte influence, etc., c'est le moment de passer au niveau supérieur, on va dire.
L'objectif pour tout le monde étant de maintenir le marché de Noël jusqu'au bout, jusqu'au 26 décembre.
Merci beaucoup Mélina Fachin. Voilà, on va serrer la vis, on va vérifier un petit peu plus si les gestes barrières sont respectés, sont bien respectés au marché de Noël de Strasbourg, qui est une jolie idée de balade. 12h33, le variant Omicron pourrait représenter une menace pour la reprise économique, avertit ce matin l'OCDE. Et pour cause, les frontières se referment à ce sujet. Écoutez ce témoignage d'un Français bloqué en Afrique du Sud. Il s'appelle Kevin, il a 27 ans. Il est bloqué depuis vendredi.
Initialement, je devais rentrer le vendredi 26. Mon vol était prévu à 12h40 pour Paris avec le vol Air France. Mon vol était reporté une fois à 12h40 pour mercredi, aujourd'hui d'ailleurs, annulé. Et depuis, on n'a aucune nouvelle, à part qu'ils disent qu'ils reculent la date à chaque fois. Donc là, jusqu'au 3 pour l'instant, et ça se trouve qu'on va arriver au 3, ils vont reculer encore, on ne sait pas. Et à part ça, on n'a rien. Pas de réponse. Du coup, là, ça fait un coût supplémentaire, oui, qui n'était absolument pas prévu. Du coup, bah, on est obligé de taper dans nos économies ou même demander à la famille de nous aider. Entre vendredi soir et jusqu'à maintenant, on est à environ à 300-350 d'hôtels, sans compter la bouffe.
Voilà, on a tous les détails, témoignages recueillis par Arthur Pereira, ce Français qui est donc bloqué en Afrique du Sud. Pour l'instant, il n'en est pas question en France, mais l'Allemagne y réfléchit. Je vous parle de la vaccination obligatoire. Hélène Kohl, en direct d'Allemagne, avec nous pour Europe 1. Hélène, le futur chancelier Olaf Scholz est pour la vaccination obligatoire, hein ?
Oui, il s'est prononcé pour à titre personnel hier lors d'une interview, mais il faut bien noter que cela passera de toute façon par un vote au Parlement sans aucune consigne de vote. Les 735 députés décideront en leur âme et conscience, comme c'est la coutume ici de le faire pour absolument tous les sujets éthiques, par exemple la fin de vie ou le don d'organes. Et certains députés, y compris au sein de la majorité d'Olaf Scholz, ont d'ores et déjà signalé qu'ils voteront contre cette obligation vaccinale pour tous. Cela dit, il laisse la porte ouverte à une obligation vaccinale pour certaines professions. Ici, les soignants ne sont toujours pas obligés de se faire vacciner, par exemple. Ensuite, si ce principe est adopté par le Bundestag, cela rentrerait en vigueur fin février seulement, avec un système d'amende pour les récalcitrants. Le futur ministre de la Justice ne donne pas de détails, mais certains proposent un mécanisme de sanctions financières exponentielles pour bien faire comprendre aux sceptiques comment le virus se répand. Alors ça donnerait ça, 1 centime d'amende le premier jour, 2 le deuxième, 4 le troisième. On arrive à 1,17€ d'amende en semaine 1, mais déjà 100€ d'amende en semaine 2 et 10 000 en semaine 3, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de faire pression sur ces 13 millions d'Allemands qui continuent de refuser le vaccin ici. On a dans certaines régions seulement 50% de la population qui sont vaccinés. C'est le cas notamment, et c'est le cas surtout dans les régions où l'incidence explose, en Saxe notamment, incidence à plus de 2000.
La vaccination obligatoire en projet, donc le futur chancelier qui s'y dit favorable, en tout cas à titre personnel. Merci beaucoup Hélène pour toutes ces informations. Hélène Kohl en direct de Berlin, 12h36.
Europe Midi, midi 30, 13h, Romain Desarbres.
La présidentielle 2022, ce qui est frappant dans la primaire des Républicains, c'est qu'il n'y a pas de véritable favori. Les 5 candidats en lice ont quasiment tous les mêmes chances. Le vote a débuté ce matin pour départager Michel Barnier, Éric Ciotti, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Philippe Juvin. Il y a 140 000 adhérents votants. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Bonjour Alexandre.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
C'est vous qui suivez ce vote. On connaîtra le nom des 2 finalistes demain en début d'après-midi. Hein.
Oui, et on peut déjà vous donner la participation pour le premier tour à midi qui est de 25%. Premier tour qui s'est donc ouvert depuis 8h ce matin et dure jusqu'à demain 14h avec les résultats annoncés 30 minutes après la fin du vote. Le deuxième tour aura lieu entre vendredi 8h et samedi 14h. Et c'est samedi à 14h30 que l'on connaîtra le ou la grande vainqueur. Le scrutin a donc lieu par voie électronique avec seulement un bureau de vote physique ouvert par département pour permettre à ceux qui ne sont pas familiers avec Internet de pouvoir quand même voter. Mais pour ce qui concerne le vote en ligne, le parti a tenu à renforcer au maximum la sécurité. Toute la procédure s'effectue sous le contrôle d'un huissier en présence des représentants des candidats qui découvriront donc tous en même temps les résultats. Et c'est à Christian Jacob, le président du parti, que reviendra la charge d'annoncer par téléphone les scores aux 5 prétendants. Des candidats qui vivent eux aussi un scrutin particulier, sans sondage, avec un corps électoral pour moitié renouvelé et surtout très peu de bureaux de vote, donc pas de bureau de test et pas de remontée en cours de journée, comme c'est le cas habituellement pour les votes traditionnels.
Merci beaucoup Alexandre. Donc 25% de participation à 12h38, c'est pas mal, hein, sachant que ça a démarré ce matin à 8h.
Oui, et on a jusqu'à demain 14h, donc on aura un autre chiffre à 18h.
Voilà, 25% de 140 000, ça fait à peu près 35 000 votants déjà. Merci beaucoup Alexandre Chauveau. Le 20h de TF1 a fait un beau score d'audience hier, avec comme invité Éric Zemmour. L'interview a été suivie par 7 200 000 téléspectateurs. Le candidat qui n'a pas été content de l'interview parce qu'il n'y a pas eu de questions sur le programme, Victor Chabert. Vous suivez Éric Zemmour pour Europe 1. Il y a eu la déclaration de candidature hier à midi. Le passage aux 20h. Quelles sont les prochaines étapes ?
Eh bien Romain, prochaine étape, dimanche, son premier grand meeting de campagne au Zénith de Paris. Je peux vous dire qu'Éric Zemmour fera un discours assez long, plus d'une heure, il le travaille lui-même et il en profitera aussi pour dévoiler le nom de son parti. Alors le Zénith c'est 6000 places, mais l'équipe de campagne a mis en place une stratégie de surbooking pour montrer beaucoup de monde à l'extérieur et essayer d'afficher un engouement autour du candidat. Mais plusieurs manifestations d'extrême gauche veulent perturber ce rassemblement. Sur le fond, on en sait un peu plus aussi, la campagne va s'articuler autour de 5 thèmes, les 5 I, identité, instruction, impôts, industrie, indépendance. Pour l'instant, peu de propositions concrètes pour chaque item. Une stratégie assumée pour ne pas tout dévoiler dès maintenant. 23 chefs de pôle thématique ont été nommés pour travailler sur ce programme. Leurs noms seront connus dans les prochains jours. Hier soir, ce qui était intéressant, c'est qu'Éric Zemmour a tenu à ce qu'on ne le présente plus comme polémiste ni écrivain, mais comme véritable candidat à l'élection présidentielle. Tout l'enjeu maintenant, c'est qu'il le montre.
Merci Victor Chabert. Et puis Éric Zemmour débattra avec Bruno Le Maire, on l'a appris ce matin. Ce sera le 9 décembre au soir sur France 2. Il est 12h40, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la consommation de cannabis. Un jeune sur deux a déjà fumé du cannabis. On va en parler avec le chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital universitaire Paul Brousse. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h43, c'est un chiffre sur lequel je voulais revenir dans Europe Midi. Au-delà du chiffre, je voulais revenir sur cette réalité. En France, plus de 47% des 15-24 ans ont déjà fumé au moins une fois du cannabis. Un jeune sur deux a déjà fumé au moins une fois du cannabis. Chiffre issu d'une enquête IFOP pour High Society. Avant de retrouver en direct avec nous le docteur Amin Benyamina, qui est psychiatre et addictologue, je voudrais qu'on écoute ces témoignages recueillis à Marseille.
C'est assez commun, ouais. On peut s'en procurer assez facilement. C'est pas très grave, je pense.
Il y en a plein, ils fument des joints. C'est pas parce qu'il y en a, il a fumé un joint, c'est faut s'affoler. Hein. C'est pas ultra grave, c'est un joint, quoi. C'est comme de l'alcool.
En soirée, pareil, s'il n'y a pas de quoi fumer, on vient pas parce que c'est nul, on s'amusera pas. Voilà. C'est aussi banal qu'un pack de bière maintenant.
Voilà des propos recueillis par Stéphane Burgat à Marseille. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital universitaire Paul Brousse, président de la Fédération française d'addictologie. On entend beaucoup de choses dans ce témoignage. 15 secondes de condensé, mais il y a énormément de choses. On entend d'ailleurs, c'est comme l'alcool. C'est vrai qu'on entend souvent ça. Le cannabis, attendez, c'est comme l'alcool. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Non, c'est pas vraiment comme l'alcool, parce que le cannabis n'est pas un produit qui est légal, c'est un produit interdit. L'alcool est un produit pour lequel il n'y a pas de politique de prévention, il y a même une incitation de fait parce qu'on a une culture de l'alcool. Bon, le cannabis est un produit interdit, et c'est un produit qui touche une population importante, ce sont les jeunes. Les chiffres que vous avez cités, à travers cette enquête IFOP, ce sont des chiffres que nous connaissons maintenant depuis plusieurs années, et qui sont régulièrement rapportés par l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et de toxicomanie, à travers les enquêtes faites régulièrement, notamment les enquêtes des jeunes de 17 ans qu'on appelle escapades. Mmh. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment de découvrir, mais non, ça ne fait que confirmer par une méthodologie différente et par un institut de sondage qui n'est pas spécifique dans ce type de questions.
Mais les messages de prévention ont du mal à passer, parce qu'effectivement, c'est une réalité qu'on ne découvre pas aujourd'hui. Mais vous avez entendu, je crois que c'est une jeune fille, une adolescente, une jeune, qui dit « bon, attendez, c'est pas grave
». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne vois pas beaucoup de messages de prévention. Ce que je vois depuis quelques temps, c'est essentiellement des messages portés par le ministère de l'Intérieur sur la pénalisation, la prohibition. Partant du principe que c'est un produit interdit, donc on n'a pas peut-être à mettre en place une politique de prévention. La réalité est tout autre. Le cannabis infuse la société, infuse toutes les couches de la société. Le trafic est très puissant avec ses conséquences sur les jeunes qui sont catastrophiques et des conséquences sur la société. Donc évidemment, il faut une vraie politique de prévention qui pour l'instant est inexistante et de communication loyale, claire, franche et décomplexée.
Les jeunes salariés fument également du cannabis. Les 15 ans, on est au lycée, mais 24 ans, on travaille souvent. Ça pose des problèmes au travail ?
Oui, évidemment. Lorsqu'on est consommateur de cannabis...
À partir de quelle consommation ça pose un problème ?
Quand vous consommez tous les jours, que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas très performant, ça commence à poser problème. Mais c'est ce qui est vraiment problématique. Et pour constituer une force et une concentration importante, avoir un vrai discours de santé publique, le cannabis pose problème chez les jeunes, parce qu'il y a un problème de décrochage scolaire, des risques de problématiques psychiatriques, et chez les personnes qui ont des problématiques psychiatriques. Pour les personnes à partir de 24-25 ans, on n'a plus le risque, ou du moins le risque est abaissé par rapport aux modifications structurelles et biologiques. Et donc on est sur autre chose, on est sur une question de société, sur le statut légal ou non légal du cannabis qui s'est posé dans d'autres pays. En revanche, le consensus, il est clair, il est scientifique, il est mondial. Il faut mettre une politique de prévention et peut-être même d'interdiction pour les jeunes. Sauf que la prohibition, tout craint actuellement, est un saupoudrage et qui n'a aucun sens. Des moyens de police avec une absence totale de prévention et une information réelle sur le produit, sur les risques encourus.
Merci docteur, docteur Benyamina, addictologue, psychiatre. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Je voulais qu'on revienne également sur cette histoire. Un homme vient d'être arrêté 27 ans après le meurtre d'une lycéenne. Son ADN, relevé dans une affaire de violence conjugale, a matché, comme on dit, avec celui retrouvé sur les lieux du crime en 1994. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on sait de cette affaire ?
Eh bien, l'homme de 54 ans, interpellé hier matin en région parisienne, devient le suspect numéro 1 pour le meurtre de Nadège Desnois, une lycéenne de 17 ans retrouvée morte, étranglée et lardée de coups de couteau à Château-Thierry en 1994. Son corps avait été retrouvé sur le bord d'un chemin à proximité de son lycée. Dans un premier temps, la piste de Michel Fourniret a été explorée par les enquêteurs. Finalement, l'ADN a parlé, une empreinte génétique retrouvée sur la scène du crime est ressortie. Elle correspond avec l'empreinte génétique de cet homme. Selon nos informations, le suspect était déjà connu pour une affaire d'enlèvement d'enfants. Il figurait au FIGET, le fichier des délinquants sexuels. Le quinquagénaire doit maintenant être auditionné par les enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes.
Merci beaucoup Yasmina, 12h48.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
La dernière étape de la réforme de l'indemnisation du chômage entre en vigueur aujourd'hui. Le gouvernement veut rendre moins intéressant, on va dire les choses comme ça, le chômage pour deux catégories. Élise Dangean avec nous, bonjour Élise.
Bonjour Romain.
Il s'agit des cadres et de ceux qui alternent emploi et chômage. Alors qu'est-ce qui va changer ?
Alors d'abord, ce qui change, ce sont les conditions qui permettent d'ouvrir des droits au chômage. Désormais, pour pouvoir être indemnisé, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois sur les 2 dernières années au lieu de 4 jusqu'ici. Pour les plus de 53 ans, ce sont les 3 dernières années qui seront prises en compte. Cette nouvelle règle va s'appliquer à tous les nouveaux chômeurs à compter d'aujourd'hui. Si vous êtes par exemple saisonnier, que vous travaillez à la montagne l'hiver, il vous faudra 2 saisons et non plus une pour pouvoir toucher le chômage. Selon l'étude d'impact de l'UNEDIC, ce changement va retarder l'ouverture de droits à 475 000 personnes et ce, dès la première année d'application. L'autre mesure qui entre en vigueur aujourd'hui, c'est la dégressivité plus rapide des allocations pour les cadres. Si vous avez moins de 57 ans et que vous gagnez plus de 4500 euros bruts par mois, vos droits baisseront d'un tiers à partir du 7e mois de chômage. C'est de moins, c'est pas facile à dire qu'aujourd'hui. Et cette mesure va concerner environ 60 000 personnes l'an prochain.
Merci beaucoup Élise Dangean. Effectivement, ça change à partir d'aujourd'hui pour l'indemnisation du chômage. Il est 12h50, restez bien avec nous. Dans un instant, Jean-François Pérez va rentrer dans ce studio et on va parler de quoi ? D'un ballon d'or au Parc des Princes ce soir. Et oui, à tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h53, vous êtes peut-être déjà dans votre voiture. Écoutez bien, ou dans votre voiture tout court, l'usine Renault de Flins se transforme et va arrêter de fabriquer des Zoé et des Micra pour devenir une refactory. Comprenez, une usine de reconditionnement des voitures d'occasion. C'est stratégique parce que les voitures d'occasion se vendent de plus en plus car il y a des pénuries de cartes électroniques dans le monde pour fabriquer des voitures neuves et il y a des pénuries de voitures neuves. Aurélien Fleureau pour Europe 1 nous fait visiter les lieux.
Ici, les voitures ne restent pas plus d'une semaine. Elles sont quelques centaines à patienter sur un parking. Ensuite, place au check-up complet. Vidange, peinture, carrosserie, douche et séance photo avant le retour en concession. De quoi gagner en productivité, explique Yvan Segal, directeur du commerce chez Renault.
Vous avez là ici un véhicule sur lequel on a à rénover les jantes aluminium. On a des processus avec des équipes qui savent le faire de manière qualitative. Dans une concession, un concessionnaire pourrait être amené soit à passer par un prestataire, soit à changer complètement les jantes alu.
L'activité VO, voiture d'occasion, a permis de donner une nouvelle chance à Flins, alors que les futures voitures électriques de Renault seront fabriquées en partie dans le Nord, rappelle Luca De Meo, le directeur général.
On avait l'urgence et le défi de trouver une solution, inventer quelque chose. Et je voyais aussi que c'est concret. Aujourd'hui, on est dans la ligne du VO, mais si vous baladez dans tout le site, il y a plein de choses qui sont en train de se passer à droite à gauche.
700 personnes travaillent dans cette usine de reconditionnement. Ce sera 3000 emplois minimum en 2030 à Flins, assure Luca De Meo, qui imagine déjà un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros.
Allez, on parle football à présent. Soir de fête au Parc des Princes après le Ballon d'Or de Messi, bien sûr. PSG Nice ce soir. Jean-François Pérez, bonjour.
Bonjour, là.
Ce sera l'occasion d'exhiber le trophée. Mais vous nous dites qu'en coulisses, ce n'est pas aussi simple.
Non. Alors d'abord, l'hommage, il sera pas mal en effet. Pour la première fois de l'histoire du PSG, hein, c'est un joueur qui porte le maillot du club de la capitale qui est sacré Ballon d'Or. Alors certes, le trophée doit bien davantage aux performances de Messi avec Barcelone ou encore avec la sélection argentine. Mais le septuple couronné sera acclamé comme il se doit par les 45 000 spectateurs du parc. Pour le reste, vous le disiez, à l'instar de la météo, le temps est plutôt gris sur le PSG. Neymar est blessé pour au moins 6 semaines. Les négociations pour la prolongation du contrat de Mbappé s'éternisent. Sergio Ramos a été laissé au repos après son seul et unique match à Saint-Etienne. Il est fatigué, paraît-il. Et puis, malgré la première place en Ligue 1 et les 12 points d'avance, il a les critiques sur le jeu de l'équipe, décevant, sans idée directrice. L'entraîneur Mauricio Pochettino est sur la sellette, mais vous allez l'écouter, il ne s'inquiète pas.
On a pris un très bon départ en Ligue 1, on s'est qualifié pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions. Tout cela c'est bien, maintenant il faut se concentrer sur notre style de jeu et tenter de devenir meilleur jour après jour.
Voilà, à suivre. Quelques bonnes nouvelles quand même avant d'affronter l'actuel troisième de la Ligue 1, cette ambitieuse équipe de Nice, entraînée par Christophe Galtier. Le retour de Marco Verratti un mois après sa blessure à Marseille. La sélection du petit frère de Kylian Mbappé, Ethan, en équipe de France de jeunes. Il a seulement 14 ans, paraît-il très prometteur. Mais la star ce soir, vous l'aurez compris, ce sera Messi. Des portraits du numéro 30 seront projetés partout ce soir au parc. Et une série de produits dérivés sera commercialisée dans quelques jours. Le foot avec Messi, c'est aussi et surtout du business.
Merci beaucoup Jean-François Pérez. Sergio Ramos est déjà fatigué.
Oui, il est fatigué. Ouais.
Il est fatigué. Bah, on a le droit d'être fatigué.
Il a joué un match, il est fatigué. Mais bon, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Alors, bon, le rythme doit revenir.
Mais on a le droit d'être fatigué. Allez, 12h56, le temps, la météo. Anissa Haddadi, la journée est pluvieuse. Personne n'est épargné, hein.
Oui, la perturbation qui traverse le pays depuis ce matin va en effet toucher, Romain, toutes les régions. Après une matinée bien ensoleillée au bord de la Méditerranée, ça y est, hein, la pluie arrive cet après-midi. Des pluies accompagnées de vent d'ouest sur les côtes. Le vent souffle jusqu'à 70 km/h. Le vent est très présent aussi sur l'Occitanie, le Val-de-Saône, le Nord-Est, les côtes de la Manche ou encore les côtes atlantiques. Cet après-midi, la perturbation va s'étendre des Pyrénées jusqu'aux Alpes du Nord. À l'arrière de la perturbation, c'est un ciel de traîne qui se met en place. Donc sur la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne, le Limousin, le Nord-Est, les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, la région parisienne, les Hauts-de-France. Voilà, dans toutes ces régions, on a un ciel qui alterne entre éclaircies et averses. Les températures, elles sont plus douces pour ce premier jour de l'hiver météorologique. On a 6 degrés à Aurillac, 7 à Rodez et Valence, 9 degrés pour Belfort, 9 degrés également pour Metz et Clermont-Ferrand, 11 à Paris et Rouen, 13 degrés à Bordeaux, 14 à Marseille et 16, la maximale pour Nice ou encore Bastia.
Merci Anissa, il est 12h57, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi dans un instant. C'est La France Bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bon après-midi sur Europe 1.